On n'arrête pas l'écho. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
J'ai découvert l'amitié de SDF. De temps en temps, je vais dormir avec eux. Je suis allé séjourner dans des bidonvilles, à Delhi, à Bombay, à Nairobi, à Jakarta.
Il raconte aussi le bidonville d'Aubervilliers, la jungle de Calais. Qui ça ? Le nouveau PDG de Danone. Pas de la famille Ribou ? Il s'appelle Emmanuel Faber et donc là, il est devant des diplômés 2016 de HEC. Il leur dit la pauvreté, il partage sa conviction.
Après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie.
Autant vous dire que la vidéo est virale sur Internet. En août dernier, au MEDEF, ce patron du CAC 40 a aussi lancé à ses pairs « Les chefs d'entreprise ne sont pas là que pour gagner de l'argent ». Et dans le même temps, il a dénoncé la financiarisation des entreprises. Emmanuel Faber sait de quoi il parle. 20 ans chez Danone, il a aussi été directeur financier en charge des finances. Donc, sa rémunération 2016, 4 800 000 euros. Bon, il y a le discours et il y a les actes. Par exemple, sur le partage de la valeur ajoutée, le porte-parole de la Confédération Paysanne voudrait dire un mot.
Quand on voit Danone l'année passée qui dit « nous, on a obtenu des bénéfices records parce qu'on a payé le lait pas cher ». C'est indécent, en fait. C'est indécent.
Voilà. Emmanuel Faber prendra totalement les commandes de Danone le 1er décembre. Son discours, c'est donc « pas de business sans éthique ». Et en même temps, oui, lui aussi, son objectif est de devenir le leader mondial. Tout cela est-il bien compatible, raisonnable, possible ? Emmanuel Faber donne très, très peu d'interviews. Ça fait longtemps qu'on l'invite au Maguéco.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
On n'arrête pas l'écho, mais c'est le moment de ralentir. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Coy Nguyen est le réalisateur du Maguéco. Jérémy Younes est attaché de production. Et à la technique ce matin, Gaël Braouezek nous accompagne. Les débatteurs sont assis dans le studio 521. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques et Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Sujet de débat ce matin un peu en rapport avec ce petit portrait d'Emmanuel Faber. C'est un autre Emmanuel, Emmanuel Macron, qui veut, nous dit-il, procéder à la réforme de notre philosophie de ce qu'est l'entreprise. Qu'a-t-il en tête ? On se retrouve dans une poignée de secondes. Dernière ligne droite, c'est aussi l'actu pour la révision de la directive travail détaché. Mon invité ce matin est la commissaire européenne pour l'emploi, Marianne Thyssen. C'est une parole rare et elle est au cœur de l'actualité. Entretien vers 9h45. Également au programme, une incursion sur le marché de l'art contemporain, au moment où la FIAC bat son plein, ça va nous faire du bien. Comment se fabrique la cote d'un artiste ? Vous entendrez le reportage de Maïwenn Bordron. Et puis, le moment... Elle rit déjà. Le moment vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Question de qui ce matin ?
Une question d'Antonio sur la promesse d'embauche. Toutes les règles ont changé et c'est vraiment pas simple.
Ah, les promesses. Voilà, on se retrouve juste avant 10h. Tout de suite, une question soulevée cette fois par le chef de l'État. Réformer la philosophie de l'entreprise, associer les salariés. Oui, mais jusqu'où ?
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc ?
N'arrête pas l'écho. Le débat.
L'entreprise, ça ne peut pas être simplement...
Emmanuel Macron.
Rassemblement des actionnaires. Notre code civil le définit comme ça.
16 octobre 2017.
Et donc, je veux aussi que les salariés puissent avoir leur part de la réussite.
Donc être intéressés
au bénéfice. Et donc, je souhaite qu'on puisse revisiter cette belle invention gaulliste de l'intéressement et de la participation.
Pour que la France marche en avant.
Charles de Gaulle.
Ce qui s'impose.
11 mars 1969.
C'est la participation dans les entreprises. Quant au début d'intéressement du personnel aux bénéfices, la loi va instituer les rapports directs entre les travailleurs et la direction.
L'équité.
François Fillon.
Je veux aussi la voir mieux respectée au sein de nos entreprises.
Candidat LR à la présidentielle.
Dont les bénéfices doivent être raisonnablement partagés.
5 mars 2017.
Je crois à la participation. Participation.
Je souhaite que...
Benoît Hamon.
On tourne vers la cogestion.
Candidat PS à la présidentielle.
C'est-à-dire...
3 février 2017.
Que les salariés dans les conseils d'administration soient représentés...
La CFDT, elle a fait des propositions extrêmement novatrices.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
Pour une forme de co-décision dans l'entreprise.
9 septembre 2017.
Et on a fait des propositions en termes de présence dans les conseils d'administration, en termes de co-décision sur un certain nombre de sujets, et ça n'a pas été retenu.
Est-ce que ça vous intéresse, cette participation ?
Pourquoi pas ?
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
Sauf que...
17 octobre 2017.
La vraie participation des salariés, c'est premièrement être payé au niveau de leur qualification. La deuxième chose, c'est donner du pouvoir aux salariés. Or, en fusionnant les institutions représentatives du personnel, eh bien, on va donner moins de pouvoir au comité d'entreprise.
Moi, je dis que...
Pierre Gattaz, président du MEDEF.
Il faut qu'il y ait un chef qui décide.
17 octobre 2010.
Et le chef, c'est soit le patron de l'entreprise qui a été nommé par ses actionnaires, soit les actionnaires eux-mêmes. Non, l'entreprise, ça appartient pas à ses salariés, ça appartient pas à ses salariés.
Voilà, dimanche dernier, Emmanuel Macron nous a présenté quelque chose comme le troisième acte des réformes sociales. Il y aurait donc acte 1, libérer le travail, ce sont les ordonnances. Acte 2, former, ce sont les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Et enfin, donc acte 3, en 2018, le lancement de discussions pour réformer profondément, je cite, « la philosophie qui est la nôtre de ce qu'est l'entreprise ». Christian Chavagneux, le chef de l'État, a commencé par nous parler intéressement et participation. Non, je me tourne vers vous, Emmanuel Le Chip, tiens, surprise.
Pourquoi pas?
Donc, de quoi parle le chef de l'État?
Bah, c'est vrai que l'intéressement et la participation, alors ça remonte à loin. Bon, vous avez entendu le général de Gaulle expliquer qu'il fallait à la fois, en même temps, si j'ose dire, de la justice sociale et de l'efficacité économique. Et donc, effectivement, c'est lui qui crée en 1959 les ordonnances, déjà aussi à l'époque, qui, effectivement, obligent les entreprises à la participation. Enfin, les obligent non qu'à partir de 1960. Parce que 59, c'est encore facultatif. Et bref, aujourd'hui, il y a deux étages dans cette contribution, à l'épargne salariale. Il y a ce qu'on appelle la participation. Donc là, la règle est très claire. C'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est une partie des profits de l'entreprise qui est mise de côté pour être répartie ensuite entre les salariés. Donc tout ça est très codifié. Et en plus, il y a un deuxième étage qui, lui, est beaucoup plus libre, en fait, qui est l'intéressement, qui est facultatif et qui, lui, peut reposer sur des objectifs très différents fixés par l'entreprise. C'est-à-dire que on fixe un objectif sur, ça peut être faire des profits, évidemment, mais ça peut être un objectif de responsabilité sociale, ça peut être aussi de faire moins de pertes. On se dit, allez, l'année prochaine, on va essayer de faire moins de pertes, et si on fait moins de pertes, vous serez intéressés. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus flexible. Donc aujourd'hui, on a ces deux dispositifs qui sont les principaux dispositifs de redistribution d'une partie des profits des entreprises vers les salariés.
Et ça fait partie donc de l'épargne salariale. Christian Chavagneux, est-ce que ça représente beaucoup d'argent et pour ça se distribue comment? Est-ce que c'est pour tous les salariés? Est-ce que... Qui en profite?
Alors, il y a à peu près 17 milliards versés en 2015, 8,6 millions de salariés. Alors, on dit toujours 55% des salariés du privé hors agriculture. Mais rajouter les agriculteurs, rajouter les fonctionnaires, ça fait en fait à peu près 40% des gens qui sont en emploi, qui touchent de la participation ou de l'intéressement. Sur la dernière enquête, donc sur les conditions de travail dans l'Union européenne, la moyenne européenne, c'est 13%. Donc, nous, on est vraiment très largement au-dessus. C'est une spécificité française. Ça pose quand même des gros problème, vous l'avez dit, vous l'avez suggéré à Alexandra. Bon, d'un côté, le fait que les fonctionnaires aient rien, par exemple, ça, encore une fois, on va donner des choses aux salariés du privé et rien aux fonctionnaires. Pourquoi? Ils sont laissés de côté. Bon, mais la distribution...
L'État n'est pas censé faire des profits.
Oui, tout à fait, mais c'est l'intéressement, c'est pas lié au profit, vous venez de l'expliquer, Emmanuel. Donc, il y a d'autres façons de pouvoir donner des choses. C'est surtout que la distribution est très inégalitaire. Inégalitaire pourquoi? Par la taille. Dans les entreprises de plus de 500 entreprises, en gros, 90% des salariés en touchent. Entre 50 et 500, on tombe déjà à 70%. Si vous êtes dans les entreprises de moins de 50, mais Emmanuel a rappelé que pour la participation, ce n'était pas obligatoire, vous êtes à 16% et la participation n'est pas obligatoire, mais vous pouvez en donner. Il y a 3,2% des entreprises de moins de 50 qui en donnent. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité qui est liée à la taille de l'entreprise. Mais il y a aussi une inégalité qui est liée au niveau de salaire dans l'entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise qui distribue des très hauts salaires par rapport à la moyenne française, vous êtes beaucoup plus couvert par l'intéressement à la participation que quand vous êtes dans les entreprises qui versent les plus bas salaires. Donc ça rajoute de l'inégalité salariale à l'inégalité salariale. Les entreprises peuvent être tentées de tricher. En ce moment, il y a un procès en appel avec l'APER, par exemple, parce que les salariés ont dit « on s'est fait avoir ». L'entreprise n'a pas, pour ne pas distribuer de participation, a dissimulé les profits artificiellement ailleurs. On connaît toutes ces pratiques fiscales douteuses et multinationales. Bon, ils ont perdu en première instance, mais le procès est en appel. Et puis enfin, dans les entreprises qui ont des accords d'intéressement depuis longtemps, qu'est-ce qu'on note? La part variable du salaire s'accroît par rapport à la part fixe. Et ça veut dire que pour les salariés, il y a plus d'incertitudes.
Bah oui, il y a la conjoncture qui joue.
Il y a la conjoncture qui joue, donc la part variable, plus d'incertitudes pour vous. Et puis, quand même, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, les entreprises ont accepté de passer à l'intéressement, à la participation? Parce qu'il y a moins de cotisations sociales que sur les salaires. Donc ça réduit les recettes budgétaires de l'État. C'est pour ça qu'on a instauré un forfait social et que ces dernières années, il a été plusieurs fois relevé.
C'est alors un forfait social, c'est-à-dire la taxe...
une sorte de taxe de, voilà, de prélèvements sociaux sur l'intéressement et la participation. On l'a relevé pourquoi? Parce que le Bercy s'est aperçu que les entreprises passaient par là pour payer moins de cotisations. Donc Bercy a essayé de récupérer quand même de l'argent en remontant ces prélèvements sociaux sur l'intéressement et la participation. Mais du coup, on est inquiet parce que quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances, lui, il a proposé une taxe uniquement de 8%. Aujourd'hui, c'est plus du double. Uniquement de 8% sur les 6 premières années. Donc ça baisserait encore les recettes budgétaires de l'État. S'il ne fait pas tout ça, c'est-à-dire s'il n'est pas contre les inégalités, etc., etc., tout ce que j'ai dit, alors ce sera du pur affichage politique. Votre philosophie refonder l'entreprise et la philosophie de refonder l'entreprise sera juste un peu de fric pour dire que, vous voyez, on a donné beaucoup de choses au patron, mais on en lâche aussi un petit peu aux salariés, mais de manière très inégalitaire, dans la logique de sa politique fiscale, malheureusement.
Alors, Emmanuel Le Chip, Christian Chavagneux vient de nous présenter une belle idée, mais avec beaucoup de problèmes,
oui,
et puis peut-être des arrière-pensées.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes que je vais essayer d'éclairer un peu différemment. C'est vrai qu'inégalité dans la répartition, toutes les grosses boîtes sont équipées, grosso modo. Mais sur les boîtes de moins de 50, vous n'avez que 17% des salariés qui sont couverts. Alors la question, c'est pourquoi on a ces inégalités et pourquoi finalement les dirigeants ont autant de mal à passer à l'acte, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés. Alors c'est vrai que Christian l'a évoqué, il y a des règles, voilà, ils veulent pas toujours partager les profits. Il y a aussi le fait que ils sont quand même pas encouragés à le faire, compte tenu, et là c'est quand même un mal français, cette instabilité réglementaire qui fait que c'est très compliqué aussi de s'engager dans ces processus. Aujourd'hui, vous avez 3 taux, par exemple, sur le forfait social, c'est quand même assez compliqué. Et puis, la participation, c'est une formule qui est devenue assez obsolète. Alors, sans faire trop de technique, il faut savoir qu'elle est basée sur ce qu'on appelle le bénéfice fiscal. En gros, il y a 50 ans, le bénéfice fiscal, c'était à peu près la même chose que le bénéfice comptable. C'était assez simple. Aujourd'hui, dans les grosses boîtes, il y a beaucoup de processus d'optimisation, ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire faire des facturations à l'étranger, etc. Il y a beaucoup de moyens de jouer là-dessus. Et dans les petites boîtes, vous avez tout ce qui est crédit d'impôt qui bouleverse un petit peu aussi la donne. Et donc, vous avez une vision du bénéfice fiscal qui ne correspond plus à ce qu'est le réel bénéfice de l'entreprise. Donc voilà, et on se dit, le seul problème aussi, moi je trouve, que ça pose, c'est que on se dit, on n'est quand même que dans des dispositifs qui ne font que jouer sur le revenu des salariés et qui ne donnent finalement aucun moyen supplémentaire aux salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est que sur de la logique financière, c'est-à-dire tout ce qui pourrait permettre, et c'est ça moi qui m'a plu dans la déclaration du chef de l'État, c'est les perspectives que ça ouvre sur un petit peu la révolution psychologique que ça pourrait créer dans le capitalisme français. Et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un rapport différent entre les salariés et les actionnaires et les dirigeants? Et la participation et l'intéressement ne répondent pas du tout à cette logique-là.
Alors justement,
la vraie question qu'il faut mettre les pieds dans le plat, c'est comment on associe davantage les salariés à la direction de l'entreprise, comment on met en place une co-gestion à la française.
En effet, on avait l'impression qu'il y avait un peu ça. Quand on nous dit refonder la philosophie de ce qu'est l'entreprise, on se dit il n'y a pas seulement l'intéressement et la participation. Christian, ça fait référence à quoi quand on dit la co-gestion? Ça fait référence à quelle réflexion? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour partager le pouvoir?
Il y a vraiment plein de choses. Contrairement à ce qu'on entend d'habitude, les actionnaires ne sont pas propriétaires des entreprises, d'accord ? Ils sont propriétaires d'un titre qui leur permet de toucher une partie des dividendes, une partie des bénéfices qui est produit par la société. Quand vous êtes propriétaire de votre portefeuille, vous prenez votre portefeuille, vous prenez l'argent dedans, vous le dépensez comme vous voulez. Si un actionnaire prend le portefeuille, la trésorerie d'une entreprise, va piquer dedans, faire quelque chose, ça s'appelle de l'abus de biens sociaux. Donc, les actionnaires ne sont pas propriétaires des entreprises, contrairement à ce qu'a dit encore Pierre Gattaz cette semaine. Les propriétaires d'entreprises, c'est tout le monde, tout le collectif de richesse, c'est les salariés, c'est les sous-traitants, c'est tout ça. Et le président de la République, là, moi, je trouve que c'est intéressant parce que il pose vraiment la question. Il dit, et si l'entreprise n'était pas une propriété privée, mais un espace politique dans lequel les conséquences des décisions prises sur la société au sens large devraient être prises en compte? Et ça, c'est une vraie révolution. Moi, je suis assez d'accord avec Emmanuel Macron. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Il a essayé de le faire quand il était ministre, la fameuse loi Macron.
2015.
Il a 2015. Il y a les articles du Code civil qui disent, une société, c'est quoi? C'est deux gens qui se mettent ensemble, deux personnes au moins ou plus qui se mettent ensemble et qui essaient de faire des profits, se les partager. Emmanuel Macron, dans la loi 2015, il nous dit quoi? Il dit il faut changer l'article du Code civil qui définit ça. Attention, vraie évolution, d'accord? Et pourquoi? Les associés qui s'engagent entre eux pour fonder une société doivent satisfaire à des exigences sociales, environnementales quand ils poursuivent leur business. Vous rendez compte la révolution que c'est pour le capitalisme français? L'entreprise doit être gérée, disait la loi Macron, dans le respect de l'intérêt général, économique, social, environnemental. Bon, c'est parti, il l'a
donc
pas
là,
gardé.
Donc là, vous ne le soupçonnez pas d'arrière-pensée là-dessus?
Écoutez, là, en tout cas, quand il était ministre, il a mis ça sur la table et je trouve qu'il a eu raison de mettre ça sur la table. Une révolution dans le capitalisme français, c'est quoi le projet d'entreprise? C'est faire attention aux conséquences sociales, environnementales et sociales, mais ça change complètement les règles du jeu. Et là, quand le président de la République dit ça, je dis oui.
Donc là, vous êtes en train d'aborder l'idée qu'il faudrait changer le droit, Emmanuel Le Chip. On pourrait imaginer changer le droit, changer le statut changer la définition de l'entreprise. On pourrait aussi mettre plus d'administrateurs salariés au conseil d'administration.
C'est ce qui se fait en Allemagne. Avant de faire de la philosophie et des grandes définitions, je crois que voilà, il faut regarder.
C'est en même temps.
Si je puis dire. Concrètement, Christian, on voit bien que ce qui s'est passé sur la responsabilité sociale et environnementale depuis des années, on voit bien que les entreprises, quand elles y sont contraintes, finalement, elles le font un peu. Et que on peut dire ce qu'on veut sur le plan philosophique. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut refermer cette parenthèse du capitalisme financier qui s'est ouverte à la fin des années 80 et dans les années 90, et dans lesquelles s'est forgée une alliance objective entre les actionnaires et les dirigeants d'entreprise pour maximiser le profit à court terme. Et en gros, si on redit qu'il faut que l'entreprise retrouve de la visibilité à long terme, finalement, vous incluez finalement tous les sujets, le social, l'environnement, etc. Et moi, je pense que ça commence concrètement par augmenter la part des salariés dans les conseils d'administration. Il y a plein d'études qui ont été faites à l'étranger hein, qui montrent que ça n'a quand même que des vertus. D'abord, ça accroît la diversité des profils et donc ça permet d'avoir des décisions beaucoup plus diverses, qui prennent beaucoup plus en compte de sujets. Les administrateurs indépendants, on voit bien que c'est un écran de fumée. Finalement, ils sont pas du tout indépendants. Donc ça, c'est important. Par rapport juste à Emmanuel Macron, pour terminer, on a Bruno Le Maire qui nous a dit cette semaine aux salariés et puis non. Castaner qui nous a dit plutôt oui, donc on est un peu dans le flou.
On est un peu dans le flou, Christian Chavagneux.
Ouais, moi, c'est juste ma crainte que le fait que ce soit Bruno Le Maire qui soit en tête, qui soit à la manœuvre pour ça, alors qu'il n'est pas vraiment ouvert aux intérêts des salariés. Non, moi là, sur le coup, je suis très sédétiste. Hein, je suis très en accord avec Laurent Berger sur ce point de vue-là. Mettre les représentants des salariés dans les conseils d'administration, c'est mettre le capital dans les conseils d'administration. C'est les chefs d'entreprise aujourd'hui à qui on a imposé d'avoir des représentants salariés disent, au moins on comprend ce que c'est que le travail dans notre entreprise. Et ça, c'est important. Et la deuxième chose à faire, c'est les espaces de co-décision. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément des salariés dans les conseils d'administration, mais des co-décisions entre le patronat et les salariés. Au sein des entreprises, par exemple, sur toutes les subventions que touchent les entreprises. Est-ce que c'est juste le patron qui doit décider ou est-ce que ça peut être décidé collectivement quand on touche du CICE, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Sur les rémunérations des dirigeants, par exemple, les très hautes rémunérations des dirigeants, l'autorégulation, ça n'a rien donné. Espaces de co-décision entre les salariés et les représentants du patronat. Et ça, vraiment, si Emmanuel Macron fait ça, alors là je le soutiendrai à fond.
Emmanuel Le Chip, le mot de la fin?
Non, mais regardez le chemin qu'il y a à faire. Hein. En Allemagne, vous avez à peu près un tiers salariés dans les conseils d'administration pour les entreprises de plus de 500 salariés. Vous voyez qu'en France, on en est loin. Et s'il y a bien un sujet sur lequel l'Allemagne, ça fonctionne plutôt bien, c'est quand même la co-gestion.
À qui appartient l'entreprise? Quel doit être son horizon? On referme ce dossier pour l'instant. Si vous voulez bien, je vous emmène ce matin loin vers l'Est, direction la Chine. Comme tous les 5 ans, le congrès du Parti communiste, ses tentures rouges, ses rangées de milliers de délégués du parti, voilà, on y est. Place Tiananmen, le palais du peuple, avec le président Xi.
全球新闻,中国播报,各位好. L'ouverture amène le progrès, le repli sur soi conduit à la régression. La porte ouverte de la Chine ne se refermera pas, elle continuera à s'ouvrir davantage. Nous étendrons le commerce extérieur, nous étendrons les nouvelles activités, les nouveaux modes de commerce pour faire de la Chine une puissance commerciale. Nous appliquerons la politique de libéralisation du commerce et de l'investissement, assouplirons les conditions d'accès au marché, élargirons l'ouverture sur l'extérieur du secteur des services et protégerons les droits et intérêts légitimes des entrepreneurs étrangers. Toute entreprise enregistrée en Chine sera traitée sur un pied d'égalité.
Quel programme ! Ni hao, Dominique André !
Ni hao, Alexandra !
Vous êtes la correspondante de France Inter à Pékin. On vient donc d'entendre le président Xi Jinping. Nouveau mandat de 5 ans. Et, ça intéresse la planète entière, le président Xi a promis que la Chine va s'ouvrir davantage.
Oui, dès l'ouverture du congrès, on peut le remarquer avec ce grand discours de 3h30 tout de même, Alexandra. Donc c'est un message direct aux entreprises et aux investisseurs étrangers. Il a promis que l'économie chinoise ne va pas fermer ses portes au monde. Et puis, il a assuré tout le monde qu'un traitement équitable serait réservé aux entreprises étrangères qui travaillent en Chine. L'ouverture économique de la Chine a été vraiment un axe très important dans le discours du président chinois, ce qui est un exemple supplémentaire au passage de la concentration du pouvoir entre les mains de Xi Jinping, puisque normalement, c'est le premier ministre Li Keqiang qui est chargé de piloter la deuxième économie mondiale. Alors Xi Jinping préside personnellement une commission qui dirige les affaires financières et économiques de la Chine, et puis il est maintenant à la tête d'une nouvelle direction qui est chargée des réformes.
Donc concentration des décisions économiques entre ses mains. Mais Dominique, est-ce qu'on peut croire le président s'il y a le discours et puis il y a les actes?
Ah, alors là, je ne vais pas m'engager parce que c'est toute la question. On se souvient que lors du forum de Davos au début de l'année, Xi Jinping s'était fait le chantre de la mondialisation économique. Mais pas plus tard qu'en septembre dernier, les entreprises européennes ont publié à Pékin, via la Chambre de commerce européenne en Chine, un rapport très sévère sur leurs conditions de travail en Chine. Les entreprises ont vraiment salué les engagements de Xi Jinping, mais elles restent très prudentes. C'est plus que jamais important, ces réformes, insiste la Chambre de commerce européenne à Pékin.
Dominique André, avec nous depuis Pékin. Merci à vous, merci à nos débatteurs, Emmanuel Lechypre, Christian Chavagneux. Christian, vous qui êtes un homme cultivé,
oula,
ça vous dit d'aller faire un tour dans le monde de l'art contemporain?
Ah bah bien sûr.
Bien sûr. Avec notre fixette éco, évidemment, on a cherché à comprendre ce marché particulier. Comment se construit la cote d'un artiste? C'est le peintre Guillaume Bresson qui nous a franchement aidés.
Donc là, c'est une peinture que j'ai peinte en 2008, qui mesure 1,70 m sur 3 m et qui représente une grande scène de bagarre la nuit, comme ça, dans un parking en extérieur.
Vous vous rappelez du prix auquel il est parti?
Il me semble que c'était 30 000 euros, mais je ne suis pas très sûr.
Parce que là, en 2008, vous étiez sorti des Beaux-Arts. C'est un des premiers tableaux que vous vendez et tout de suite, vous atteignez 30 000 euros.
Non, pas tout de suite. Moi, je suis sorti en 2007. Et j'ai eu d'abord une exposition à Paris où c'était pas ces prix-là, c'était moins cher. C'était plutôt autour de 10 000, 12 000 euros, les grands formats. Mais après, c'est vrai qu'en un an, ça a augmenté assez vite. Ouais.
Magnifique peinture de Guillaume Bresson, des scènes de rixes, de batailles, comme de grands tableaux classiques, avec un travail sur la grisaille, le clair-obscur. Mais le décor est contemporain, un parking, une cité. Et pour remplacer les armures, il y a des joggings. En 10 ans, le prix de ces grands formats a donc été multiplié par 5, un point d'équilibre entre l'offre et la demande. Mais comment y arrive-t-on? Ce qu'a découvert Maïwenn Bordron, notre reporter, c'est que la cote d'un artiste ne résulte pas du hasard, elle se fabrique. Mais bien sûr, il y a 10 ans, l'artiste Guillaume Bresson n'en avait pas conscience.
C'est en amont. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en amont dans l'école. Quand on passe les diplômes et tout ça, c'est des jurys qui viennent de l'extérieur et qui sont des galeries, des critiques et tout ça, et qui déjà peuvent vous remarquer. Et puis voilà.
Et à l'école, on ne vous apprend pas justement à cette relation avec le galeriste, parce que c'est quand même hyper important après, une fois sur le marché.
Bah, je pense que ce serait bien que ça se fasse. Au moins, ce serait clair, parce que, à mon avis, c'est un peu tabou. C'est-à-dire qu'on se dit... l'élève, il est là pour apprendre à faire de l'art, tout ça, comme si c'était totalement détaché de la réalité économique et des nécessités matérielles. Alors qu'en fait, on voit bien qu'en dessous de ça, il y a tout un tas de réseaux qui se créent dans l'école et tout, mais c'est pas explicite, c'est pas dit.
2 ans après votre sortie de l'école des Beaux-Arts, vous avez déjà exposé à la FIAC.
En 2009, la première fois, ouais. Moi, c'était mon galeriste à l'époque de Bruxelles. Je venais de faire une expo chez lui à Bruxelles. Et du coup, il avait été gentil, il m'avait dit « Bon, ben, je vais mettre le tableau qu'il y avait dans l'expo, je vais le mettre sur le stand de la FIAC. »
Et il a été vendu ?
Ben, en fait, il était déjà vendu avant de... C'est pour ça que je dis qu'il a été sympa, parce qu'il me l'a mis sur le stand alors qu'il n'était pas à vendre. Ce qui est très rare dans une foire, quoi.
Pourquoi il a fait ça, du coup ? Pour vous faire connaître un petit peu ?
Ouais, c'est ça, pour me donner de la visibilité.
Le galeriste a un rôle clé pour faire entrer puis faire connaître l'artiste sur le marché de l'art. Mais une fois qu'il est connu, comment stabiliser sa cote? C'est la question que je vais poser à Nathalie Obadia, la galeriste qui travaille avec Guillaume Bresson. J'ai rendez-vous chez elle, à Paris, dans le 7e arrondissement, car elle rentre tout juste de New York.
Bonjour.
Bonjour. Voilà. Alors, venez voir, vous êtes installé. Et c'est là où il y a le...
Voilà, il est là, le tableau de Guillaume. Après, il y a Fabrice Hibert, ça c'est un autre artiste de la galerie. Ça c'est Fiona Ray, qui expose à la galerie aussi.
Expliquez-nous un petit peu comment ça marche pour le galeriste, pour faire entrer un artiste et le faire connaître après sur le marché.
Il s'agit pour la galerie, une fois qu'on choisit de travailler avec un artiste, ici comme Guillaume Bresson, je dirais que le cœur de notre travail, c'est d'influencer les gens influents. Et le travail d'une galerie, c'est justement d'atteindre les cercles de pouvoir que sont la critique, que sont les décideurs, les commissaires d'exposition, les conservateurs des musées et bien entendu les collectionneurs les plus influents. Donc notre rôle, surtout qu'en plus Guillaume fait très peu de tableaux, il en fait peut-être 3 ou 4 par an, c'est à chaque fois, on va dire, d'une certaine façon, de placer l'œuvre dans un endroit absolument stratégique. Là, justement, nous venons d'atteindre une première victoire. C'est celle, justement, de la première acquisition d'une œuvre de Guillaume Bresson dans une institution française, puisque c'est le musée des Beaux-Arts de Toulouse. Voilà, nous sommes arrivés à ce qu'un très, très beau tableau de Guillaume rentre dans les collections françaises.
Comment se fixe le prix d'une œuvre, justement ?
C'est un ensemble d'ingrédients, le fait de participer à la Biennale de Venise, d'avoir une exposition personnelle au Centre Pompidou, une exposition à la Tate, par exemple, d'avoir des articles dans des revues influentes comme Art Forum aux États-Unis, où on sait publiquement qu'on fait partie de la collection, je sais pas, d'LVMH ou de Monsieur Pinault, de Ella Ebro aux États-Unis. Voilà, petit à petit, forcément que la demande des artistes va augmenter et donc on peut effectivement, là, s'ajuster et commencer à augmenter de 10%, de 15% tous les 2 ans. Voilà, ça se fait de manière tout à fait, on va dire, normale et logique.
Le prix d'une œuvre monte donc avec l'accord du galerie. C'est un acteur clé du marché, mais ce n'est pas le seul. Sans le soutien du collectionneur, par exemple, la cote de l'artiste ne peut pas décoller. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Tout le monde connaît François Pinault, Bernard Arnault, mais pas besoin d'être milliardaire pour être influent. Jean-Claude Volo est le PDG d'une entreprise aéronautique basée à Toulouse. Lui, il reçoit 5000 invitations par an de la part de galeristes et de foires.
Bonjour.
Maïwenn Bordron, France Inter.
Jean-Claude Volo. Les budgets que je peux mettre varient de 100 000 à 300 000 suivant les années. Alors si la pépite coûte plus d'un million d'euros, je la laisse au suivant. Pour un million d'euros, je préfère avoir 1000 artistes à 1000 euros qu'en avoir un million d'euros. Comme je spécule pas, que je revends pas, mon but c'est de trouver des super artistes très peu connus, de les aider même pour beaucoup parce que j'ai toujours 4-5 artistes que j'aide jusqu'à ce qu'ils décollent.
Est-ce que vous avez des exemples concrets de jeunes artistes que vous avez contribué à aider ?
Récemment, je suis allé à un salon qui se passait à Gisors d'art singulier, c'est au milieu de la Haute-Normandie. Niveau global, assez moyen. Et toc ! Il y avait une petite jeune femme là qui dessine. J'ai trouvé son travail incroyable, extraordinaire. Elle me dit 50 euros. Évidemment, j'ai acheté 10. Et bien, je lui ai dit, il faut arrêter de vendre 50 euros, il faut mettre 500 euros, hein, minimum. Après, je l'ai greffé sur une galerie qui va la présenter au Salon d'art singulier et brut de Paris, là. Et rapidement, des collectionneurs vont se rendre compte de l'intérêt qu'elle présente.
Comment vous, vous vous êtes dit, ça ne vaut pas 50 euros, il faut qu'elle monte ?
Parce que si je lui dis, c'est 500 euros pour toi, ça veut dire que la galerie, elle a 1000 euros, parce qu'il faut que la galerie, elle vive. Et j'estime, moi, que des dessins A4 de cette qualité-là, sur le marché aujourd'hui, ça vaut 1000 euros, parce que je connais à peu près les prix qui se pratiquent sur les marchés. Et à mon avis, c'est des bons prix d'accroche. Parce que le prix d'une œuvre d'art, c'est celui que les gens sont prêts à mettre, c'est rien d'autre. Si vous mettez des prix astronomiques et vous ne vendez rien du tout, l'artiste n'existe pas.
Ça, c'est le raisonnement d'un passionné. Mais dans certains cas, le prix d'une œuvre, c'est aussi le résultat d'une stratégie de spéculation. Alors aujourd'hui, comment ça se passe ? J'ai posé la question à Nathalie Moureau. Elle est professeure en sciences économiques à l'Université de Montpellier et spécialiste du marché de l'art.
Aujourd'hui, sur le marché international, on est dans une phase qui est plutôt spéculative, mais qui n'est pas la même que celle des années 90, puisque à la fin des années 80, c'était les traders de la finance qui étaient arrivés sur le marché de l'art. Et quand il y a eu des problèmes suite aux évolutions de la bourse, ben le marché de l'art s'est effondré. Aujourd'hui, la montée des prix au niveau international et les prix mirifiques que l'on observe sont dus notamment à l'explosion du nombre de milliardaires dans les pays émergents qui se tournent vers l'art contemporain, qui s'intéressent pas forcément de façon très très conséquente à la valeur artistique des œuvres. Ils achètent un nom, il y a un effet de démonstration par rapport à leur pouvoir financier. Donc ces acteurs jouent un rôle très très important aussi dans la course à l'envolée des prix.
Et quels sont les types de facteurs un peu irrationnels qui peuvent faire monter soudainement la cote d'un artiste ?
Je ne sais pas si c'est irrationnel. En tous les cas, ce n'est pas lié à la valeur artistique. Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des stratégies d'entente de personnes dans les ventes aux enchères, notamment par le système de prix garanti, qui est un mécanisme où là, il y a vraiment collusion entre des personnes sur le marché pour créer des prix records, offrir un signal au marché disant que c'est un prix record et créer un emballement. Et c'est une pratique qui est tout à fait autorisée par la loi. Et puis, vous avez les scandales. Quand vous avez un scandale qui apparaît autour du travail d'un artiste, ça fait beaucoup de buzz médiatique et les prix peuvent augmenter à ce moment-là.
Exemple d'artiste qui a vu sa cote augmenter suite à un scandale, Damien Hirst. Son requin mort flottant dans un aquarium s'est vendu à 10 millions d'euros dans les années 2000. Il fait partie de ces artistes superstars qui produisent des œuvres toujours plus coûteuses. Alain Quémin est professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8.
Alors on constate en effet une course au gigantisme, qu'il s'agisse de la taille des galeries qui deviennent toujours plus énormes, qu'il s'agisse effectivement des collections, beaucoup de collectionneurs privés en viennent à créer leur propre musée, et puis également les artistes participent à cette course avec ces œuvres qui elles aussi sont toujours plus énormes, marquées, accompagnées par des niveaux de prix toujours plus spectaculaires.
On peut penser par exemple à des œuvres comme le Balloon Dog de Jeff Koons.
Absolument, des œuvres comme le Balloon Dog de Jeff Koons ou alors l'exposition qui était montée, présentée par Damien Hirst ou dans les deux sites de la Fondation Pinault durant tout cet été, des statues monumentales en particulier, utilisant des métaux précieux pour certaines d'entre elles. Donc tout cela montrait bien qu'on était dans des coûts de production absolument pharaoniques.
Donc aujourd'hui, un artiste qui utiliserait des matériaux dits banals verrait sa cote par exemple stagner.
Quand les artistes sont des artistes qui ont déjà une très forte réputation, ils peuvent continuer à pratiquer leur art avec des techniques traditionnelles qui n'ont pas des coûts particulièrement élevés, par exemple la peinture, mais on voit bien que pour se démarquer de leurs concurrents, certains développent des stratégies, et en particulier les nouveaux artistes qui aspirent à occuper les positions les plus en vue qui sont les leurs, certains artistes ont complètement intégré les techniques qui seront des techniques extrêmement coûteuses, donc c'est également une façon d'instituer une forme de barrière à l'entrée de la concurrence que de se lancer dans des procédés de production qui sont extrêmement élaborés et extrêmement coûteux. On est toujours dans un système de prix record qui a tendance à augmenter, à croître sans cesse, avec une forme d'incertitude dans le contexte actuel, puisque tout le monde se dit bien que les prix sont devenus tellement pharaoniques qu'il y a un moment où ils risquent soit de se tasser, soit carrément de chuter.
Sur le marché de l'art contemporain, comment se fabrique la cote d'un artiste? C'était le reportage de Maïwenn Bordon.
Tous les samedis, à partir de 9h, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et nous revenons à l'actualité pure et dure. À présent, ouvrons le dossier du travail détaché. La directive date de 1996. Elle permet à un salarié d'un pays de l'Union d'aller travailler temporairement dans un autre pays membre. Les cotisations sociales sont celles du pays d'origine. C'est un texte qui date donc d'avant l'élargissement à l'Est. Un texte décrié, accusé aujourd'hui de favoriser le dumping social. Il doit être révisé. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Mon invité ce matin est une femme au cœur des discussions. Bonjour Marianne Thyssen.
Bonjour madame.
Vous êtes la commissaire européenne pour l'emploi et la mobilité des travailleurs, Marianne Thyssen, à 48 heures de la réunion des ministres sur la réforme du travail détaché. Le compromis entre l'Est et l'Ouest est-il à portée de main?
J'espère
que nous pouvons déboucher sur un accord. Et que nous arriverons à faire une percée sur ce dossier, à avancer. En effet, nous y travaillons depuis l'an dernier. Nous avons organisé de très nombreuses réunions à toutes sortes de niveaux et on s'est rapprochés. Je compte vraiment sur le Conseil des ministres pour trouver un accord sur ce dossier. Autrement dit, qu'on obtiendra que soit appliqué à travail égal, salaire égal, et ce, dès le premier jour de ces contrats, c'est au cœur de notre proposition.
Marianne Thyssen, il y avait déjà un compromis en juin, et c'est la France, c'est Emmanuel Macron qui a bloqué les discussions pour, souhaitait-il, pousser des propositions plus exigeantes. À votre avis, est-ce que ces mois supplémentaires de tractation ont été utiles ?
We indeed hoped to have an agreement already in June.
C'est vrai que nous espérions avoir un accord au mois de juin. Je pensais que tous les éléments étaient là, mais le paysage politique a changé. Dans l'intervalle, et le président français a souhaité vérifier par lui-même, je pense, que nous aboutirions à de bonnes solutions. Voilà pourquoi nous avons organisé une autre tournée de discussion. Et j'avoue que sur certains aspects, les arguments qui étaient sur la table ont été modifiés. Et nous évoquons maintenant des sujets comme la durée du détachement. On se penche aussi davantage sur le transport routier et puis la lutte contre les fraudes. Des résultats vont déboucher de cela et j'ai confiance dans nos toutes dernières négociations.
Alors on passe au concret, Marianne Thyssen. Il y a ces accusations de dumping social. Je vais donner un exemple. On peut faire venir en France un peintre de Bulgarie et on peut le faire travailler 60 heures. Ou alors on peut faire venir un chef de chantier polonais et le rémunérer comme un ouvrier, pas comme un chef de chantier. Est-ce qu'après cette révision, cela ne sera plus possible ?
The rule will be the following.
La règle sera la suivante.
Every rule on remuneration,
tout règlement, toute règle concernant la rémunération qui est applicable en France pour les travailleurs locaux s'appliquera aux travailleurs détachés en France. C'est très simple. Donc, si un travailleur est détaché en France, eh bien, toutes les règles et les accords de rémunération, qu'elles soient fixées par la loi ou à travers des conventions collectives, peu importe, toutes les règles applicables s'appliqueront à l'ensemble des travailleurs détachés. Il n'y aura plus de différence.
Mais du coup, on imagine qu'il faudrait peut-être plus de contrôle quand même pour vérifier que ce chef de chantier a bien ses diplômes, qu'il n'est pas payé comme un ouvrier. Est-ce que vous allez intensifier la lutte contre la fraude ?
Pour ce qui est du contrôle des inspections, ça c'est entre les mains des États membres. Mais nous nous sommes efforcés de leur donner les moyens d'effectuer ces contrôles de manière plus efficace. Et la législation sur laquelle nous planchons actuellement vise à renforcer encore davantage ces possibilités de contrôle. Par conséquent, oui, il sera plus aisé de combattre les abus, les entorses à la loi. Ce qui nous aidera également, c'est d'avoir fixé des règles claires, que sur le plan juridique, tout soit sûr et que les règles soient aisément applicables.
Vous parliez tout à l'heure de limiter la durée du détachement. Alors la France veut limiter cette durée à 1 an. Il y a des propositions du Parlement européen pour la limiter à 2 ans. Mais concrètement, par exemple, dans le bâtiment, les gens viennent en France pour 50 jours en moyenne, puis ils repartent, puis ils reviennent. En quoi limiter à 1 ou 2 ans, ça change la donne ?
Cette proposition de limiter à 2 ans, 24 mois, la durée du détachement a puisé son origine dans le règlement dans les règlements sociaux où l'on dit qu'au bout de 24 mois, les travailleurs doivent cotiser au système social du pays où ils travaillent. Et bien sûr, après, les gens retournent chez eux parce que leur famille est restée au pays, etc. Donc, on ne sait pas encore si on va s'accorder sur 12 mois ou 24 mois. La question est encore ouverte. Il faut attendre les conclusions ce lundi qui vient du Conseil des ministres.
Un autre chapitre problématique, cependant, ce sont les routiers. Doit-on les payer comme des travailleurs détachés ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit les payer selon le pays dans lequel ils roulent ? Le Parlement européen, cette semaine, a dit oui pour un temps et ensuite on attendra un autre texte. Est-ce que ça, c'est un bon compromis, à votre avis ?
Yes, this is a good compromise.
And, oui, c'est un bon compromis.
Truck drivers, there is no discussion about this. Truck drivers
et
are
les routiers, c'est parfaitement clair, ils se trouvent dans le périmètre de la directive relative aux travailleurs détachés. Mais on sait tous que le secteur du transport est extrêmement mobile, c'est un secteur très particulier et qui requiert des règles particulières. Voilà pourquoi, et déjà dans notre proposition initiale, la Commission a dit que oui, le secteur du transport devait relever de la directive mais que l'on devait élaborer des règles spécifiques. Et ce n'est pas une simple proposition, on a déjà lancé cette réflexion et des propositions qui sont actuellement examinées par le Conseil des ministres des Transports.
Je vous entends optimiste à 48 heures de ce Conseil européen, c'est-à-dire que vous voyez la fracture entre l'Est et l'Ouest s'atténuer ?
Je crois, oui, on est en train de combler le fossé et c'était l'objectif de notre proposition de réforme. Cette proposition de réforme ne visait pas à accroître le gouffre entre l'Est et l'Ouest ou à être partisan d'un côté ou de l'autre. Ce dont nous nous sommes aperçus, c'est que les gens ne font plus confiance au marché interne. Et les citoyens éprouvaient un manque d'équité. On essaye de restaurer cette équité. Nous voulons instaurer un monde plus juste, revenir à un monde juste. J'espère que nous aboutirons à une majorité qui sera d'accord là-dessus. Et c'est ça l'Europe, c'est savoir engager le dialogue afin d'aboutir à un bon compromis et un bon consensus en se rapprochant.
Marianne Thyssen, vous parlez de recherche de l'équité pour les citoyens. On entend qu'il faut lutter contre l'euroscepticisme. Il n'y a pas que le travail détaché, il y a aussi le problème de la concurrence salariale qui est aussi dans votre portefeuille. Ces derniers mois en France, on a beaucoup parlé de cette usine Whirlpool dans le nord de la France qui a été délocalisée en Pologne. Le salaire minimum en Pologne, c'est 387 euros par mois. En France, c'est 1480 euros. Comment est-ce qu'on fait une Europe sociale avec des divergences pareilles ?
Well, we have to look at the divergence, and this is one of the
items. En effet, il faut nous soucier, nous préoccuper de ces divergences salariales. Ça, c'est un sujet qui nous est très cher. Et cet élément du dossier est à l'agenda du Conseil des ministres de l'Emploi lundi qui vient. Justement, il s'agit de l'Europe des droits sociaux. Ce sujet est si vaste, c'est un cadre qui va nous guider vers une Europe plus sociale. Un des objectifs que nous poursuivons, c'est parvenir à une plus grande convergence sur ce plan entre les États membres. Nous avons vu que pendant cette dernière crise financière, nous nous sommes écartés au lieu de nous rapprocher. Or, on souhaite plus de convergence, également sur les salaires, bien sûr. Ça, c'est un sujet d'ailleurs dont se sont emparés tous les partenaires sociaux au niveau européen. C'est un sujet d'importance, en effet. Et là encore, il faut rechercher davantage d'équité, voir ce qui est possible. Et nous assurer dans la mesure du possible que les salaires soient alignés avec la productivité dans chaque secteur.
Marianne Thyssen, un regard sur la France. La France vient de faire passer par ordonnance sa réforme du Code du travail. C'est un sujet que vous suivez également de près. Qu'en pensez-vous ?
Je crois que nous ne pourrons en juger qu'après avoir vu les résultats de cette réforme. Et c'est vrai que l'Europe avait demandé à la France de procéder à des réformes pendant ce semestre de gouvernance économique. Et les propositions que j'ai vues me semblent aller dans la bonne direction. Donc, si en un mot vous me demandez ce que je pense de cette réforme, en France, eh bien, je pense que cela aidera la France à aboutir à une croissance plus forte et j'espère à pouvoir créer davantage d'emplois, car le chômage chez les jeunes en France est plus élevé que dans la moyenne de l'Europe et de manière générale, le taux de chômage en France est encore trop élevé.
Une dernière question, Marianne Thyssen, au-delà de l'emploi, une question sur les crises de l'Union. On a le Brexit, on a la Catalogne, nous sommes en train de vivre cela. Deux histoires de sécession, un pays, une région qui ne veulent plus payer pour d'autres. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous, commissaire européenne ?
Well, I think that we cannot put the same the two dossiers, let me say, on the same level in with Brexit.
Oui, ces deux dossiers ne sont pas équivalents. Avec le Brexit, eh bien, la situation, c'est qu'un État membre souhaite quitter l'Europe, c'est sa décision. Et en tant que commissaire, et c'est l'attitude de l'ensemble de la Commission, on déplore cette décision. Mais si c'est le choix de cet État membre, eh bien, on respecte les règles et on suit la procédure prévue par le traité. Donc nous sommes en train de négocier, on verra où on aboutira. J'espère qu'on débouchera sur un bon accord clair et qui sera au final dans l'intérêt des citoyens européens. Je crois que ce sera difficile pour les citoyens britanniques et pour les résidents britanniques en Europe. Il nous faut aboutir à un accord. Pour ce qui est de la Catalogne, la Commission a fait une déclaration très claire. Il s'agit de notre point de vue d'un problème interne à l'Espagne. Ce n'est pas à nous d'en juger. J'espère que les responsables concernés en Espagne aboutiront là encore à une solution.
La commissaire européenne pour l'emploi, Marianne Thyssen, merci d'avoir été sur France Inter.
Pleasure was mine. Thank you.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.
Sandrine, une question d'Antonio qui vient donc de recevoir une promesse d'embauche. Quelle est la valeur juridique de ce type de document? C'est ce qu'il vous demande. Surtout, peut-il quitter sans crainte son travail actuel?
Antonio, accrochez-vous, on y va. Avant, la promesse d'embauche avait valeur de contrat de travail, à condition que ce document mentionne un poste, une rémunération, une date d'entrée dans l'entreprise. Si le futur employeur tournait casaque, vous pouviez le poursuivre en justice. Mais voilà, il y a tout juste un mois, la Cour de cassation a changé les règles du jeu et le nom des choses. Il y a désormais deux possibilités, l'offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail. Antonio, pour vous, le plus sécurisant, c'est la promesse unilatérale de contrat de travail. Cette lettre doit contenir tous les éléments, poste, salaire, date d'entrée, mais en plus, elle vous précise que si vous acceptez, il y aura bel et bien contrat de travail. En clair, la promesse n'attend plus que votre consentement. Ou pas. Si le futur recruteur se rétracte avant que vous disiez oui, il est en tort, il risque d'être condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il devra vous payer des tas d'indemnités ou le paiement de tous les salaires si on vous a promis un CDD. Dans le cas de l'offre de contrat de travail, le contenu est identique, mais l'employeur peut se rétracter avant que vous disiez oui. Si vous contestez, vous obtiendrez éventuellement des dommages et intérêts. Antonio, tous les mots comptent.
Alors Sandrine, pourquoi avoir autant compliqué les choses?
Parce que les juges trouvaient que la promesse d'embauche n'était pas claire sur la notion de consentement des deux parties. La Cour de cassation a profité d'une affaire concernant des rugbyman. Ils avaient accepté une offre d'un club qui s'était finalement rétracté avant que les joueurs ne disent oui. Ils ont obtenu des dommages et intérêts, mais les magistrats ont décidé que cette promesse ne valait pas contrat de travail parce que elle ne leur avait pas demandé s'ils voulaient accepter ou non le boulot. Tout va dépendre, Antonio, de l'intensité de l'engagement de l'employeur. C'est ça qu'il va falloir vraiment regarder si on veut que les promesses n'engagent plus seulement que ceux qui les écoutent.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, posez-lui vos questions, ça se passe sur franceinter.fr à la page de l'émission. Vous pouvez aussi réécouter l'invité, le podcaster. Voilà, on n'arrête pas l'écho, c'est terminé, on baisse le rideau. Merci à FDR pour sa traduction.